Ben Pierre-Yves, on va en profiter puisque le mois de mars s'achève et va bientôt donc tomber en avril pour regarder les trois premiers mois de l'année à la bourse. D'ailleurs, soit dit en passant, aujourd'hui, une journée extraordinaire à New York. L'indice Dow Jones a progressé de 669 points.
Oui, voilà. Paul, je te parlerai des indices qui sont utiles. Donc, le S&P 500, Paul, l'indice américain qui a pris 2,72% aujourd'hui. Mais ce qu'on regarde la courbe, ce qui est intéressant, c'est regarder depuis janvier. Tu sais, oui, il y a eu une espèce de sommet en fin janvier, Paul, à près de 2900 points. Mais là, on était un peu en dessous, on était à 2658. Mais quand même, au niveau du rendement, sur un an, faites encore 13,5%, mais depuis le début de l'année, le rendement du S&P 500 est négatif. Il est moins 0,6%. Si on s'en va au Canada maintenant, ben depuis le début de l'année, là, c'est plus gros. On a perdu dans les alentours de 6%. Pourquoi, Paul? Ben parce qu'il y a eu cette fameuse bipolarité avec Donald Trump et nous au niveau de l'échange. On a eu aussi une perte de confiance, une certaine correction pendant les trois premiers mois de l'année. On s'en est pas encore remis. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir certains titres. Prends par exemple Facebook. T'sais, Facebook, c'est un bon exemple. Facebook a eu une performance intéressante jusqu'à temps qu'il y ait eu ce fameux scandale. Donc, on était quand même à 193$ un moment donné dans les trois premiers mois de l'année. Et là, on est sous les 160$ américains. Donc, une belle chute. Certains disent que c'est une occasion d'achat. D'autres voient ça comme une chute relativement à moyen terme. Mais l'erreur de Facebook, ça a été simplement de ne pas dire le lendemain, ben écoutez, il y a eu une brèche, on a arrangé ça, ça venait d'une application et on a perdu du rendement quand même de façon matérielle. Mais je ne crois pas qu'en pourcentage, les gens vont effacer leur compte Facebook, Paul, dans les prochains mois.
Le fabricant d'armes Remington est en difficulté.
Oui, on s'est mis sous la protection de la loi des faillites, mais le chapitre 11, donc, c'est pas une faillite, c'est une protection. Donc, on dit qu'on veut restructurer la dette, qui est de, tu sais, faire baisser la dette, même question que on puisse redémarrer l'entreprise comme il faut. Tu sais, avec le contexte actuel aux États-Unis, ce qui est spécial, c'est que tu as un fabricant d'armes à feu qui est bicentenaire, qui ne réussit pas à faire ses frais, qui est trop endetté. Et là, on a une conjoncture qui fait en sorte que les armes à feu n'ont pas, évidemment, la cote. Donc, tu peux pas faire un plan de promotion des armes à feu, ni en profiter pour dire on va augmenter. Tu te demandes même si les gens vont s'en débarrasser. Et ça a eu un impact sur d'autres armes à feu, comme Sturm, Ruger & Co., qui a baissé de 2% aujourd'hui et dont le rendement depuis le début de l'année est de moins 13%. Donc, American Outdoor Brands Corporation, même chose, sur un an, 48% négatif et 26% de perte depuis le début de l'année. Donc, les compagnies d'armes à feu cotées en bourse aussi n'ont pas la cote et ressentent l'espèce de ressac autour du contrôle des armes à feu. Donc, si vous mettez de la pression des jeunes sur le contrôle des armes à feu, qu'on rend les armes à feu un peu moins populaires, évidemment, au niveau des investisseurs, on se dit « Oh, le potentiel des armes à feu dans les prochaines années » est plus bas. Et s'il est plus bas, on va se départir de nos actions, question de profiter de avant que ça baisse. Donc, tu vois un peu, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce qui est externe, les politiques extérieures peuvent influencer la valeur des titres en bourse, même la menace de politique extérieure.
Oui, mais ce qui est le plus drôle là-dedans, et ça peut paraître contradictoire, c'est que les fabricants d'armes s'étaient préparés pour une présidence d'Hillary Clinton. Oui. Alors, ils étaient sûrs que Mme Clinton, les démocrates, allaient s'installer à Washington, ce qui aurait fait augmenter les achats d'armes de ceux qui, justement, voulaient prévenir un futur contrôle des armes à feu.
Mais là, on se retrouve avec la situation inverse.
Et c'est l'inverse. Alors, il s'est vendu moins d'armes. Enfin, il s'est fabriqué moins d'armes parce qu'on s'est dit, ben, avec Trump, il n'y aura pas de problème. La NRA va pouvoir dormir tranquille. On n'aura pas cette situation où il faut augmenter la quantité d'armes à vendre.
Exact.
C'est quand même quelque chose.
Non, c'est impressionnant, effectivement, que la stratégie s'est inversée au niveau de la production, mais finalement, on s'est quand même fait avoir parce que c'est pas venu des autorités, la menace, elle est venue de la population.
Merci, Pierre-Yves. À demain. Et au retour de la pause, Mario Langlois.